bonsoir et heureuse de vous retrouver après quelques jours d'absence de deuxième audience ce lundi 25 mai du procès sur les présumés détournements des fonds d'exécution du programme des 100 jours du chef de l'État. L'homme d'affaires Jamal Sami, directeur général de la société Samibo, continue d'éclamer son innocence et conteste la régularité de sa détention. Pour sa part, Vital Kamere, directeur des cabinets du chef de l'État, affirme n'avoir pas sélectionné l'entreprise Samibo, mais estime avoir agi dans un programme sur base du principe de la continuité de l'État. Quelle analyse faire de ces débuts de procès sur le thème du dialogue entre Congolais de ce lundi 25 mai 2020. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Maître Willy Wenga. Il est avocat près de la cour d'appel de Kinshasa à Gombe. Maître Willy Wenga, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Maître Charles Mouchizi, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Maître Charles Mouchizi, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Léopold Nwandaloko, professeur à l'université de Kinshasa et conseiller à la cour d'appel du Congo central. Professeur Léopold Nwandaloko, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Vous êtes très nombreux, vous auditeurs de Radio Kapi, à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Muzungu Baraka qui dit ceci, c'est un procès politique, Kamere n'y est pour rien. Maître Deogracias Ngongo, depuis Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, nous estimons que le procès continue à se dérouler normalement. La grande charge reste au juge de tirer les conséquences en se basant sur les arguments de la partie civile, c'est-à-dire l'État congolais, et ceux de la partie prévenue. C'est en examinant ainsi que la justice va montrer son indépendance et l'on parlera de l'état des droits en RDC. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
L'audience publique au procès du détournement présumé des deniers publics par Vital Kamere, Jamal Sami et Jeannot Mouima a débuté ce lundi 25 mai 2020 à la prison centrale de Makala. Il s'agit de la deuxième audience qui oppose le ministère public et la partie civile de la République aux trois prévenus, Vital Kamere, Jamal Sami et Jeannot Mouima. Le tribunal de grande instance de la Gombe a suivi l'infraction de détournement de plus de 50 millions de dollars américains dans le cadre des maisons préfabriquées. Jeff Ngoy nous en dit plus.
Tout a consisté pour le tribunal et le parquet et la République notamment à demander au prévenu Vital Kamere de quelle manière avait-il procédé pour retenir la société Samibo pour le marché des maisons. Comment peut-il déterminer ses tâches de supervision dans le programme de 100 jours? Qui présidait les réunions de supervision du dit programme? À ces questions, le directeur de cabinet du chef de l'État rétorque au tribunal qu'il ne sait pas pourquoi il se retrouve à la barre. Le programme de 100 jours n'est pas un crime. Il ne fait pas partie, hier comme aujourd'hui, du comité de conjoncture des dépenses de l'État. Ce n'est pas moi qui ai choisi Samibo, c'était plutôt l'ancien ministre du Développement Rural, Bitapuira. On a eu au moins 10 réunions du comité de supervision à la présidence de la République et c'est le DIRCAB qui présidait toutes ces réunions au nom du président de la République. C'est défendu Kamere, qui a réitéré sa demande de liberté provisoire. Quant à Jamal Sami, il a demandé au juge d'effectuer une descente sur le terrain au camp Tchatchi pour constater ce qu'il a réalisé pour la maison. Selon sa défense, plusieurs conteneurs de maisons préfabriquées sont bloqués à Dar es Salaam faute de paiement par le gouvernement. On m'accuse d'avoir volé 57 700 dollars reçus par tranche par voie bancaire. Je n'ai rien volé, a dit Jamal, affirmant avoir reçu cet argent pour plusieurs autres axes du marché. Mais le Libanais va brandir d'autres documents et factures qui n'ont rien à voir avec les contrats légalement conclus tant réclamé par la partie civile. Chaque partie au procès a ainsi sollicité du tribunal la comparution de ses témoins à charge et à décharge à la prochaine audience. Et la liste a été dressée.
Merci Jeff Ngoy pour tous ces détails. Maître Willy Wenga, je rappelle que vous êtes avocat après la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, deuxième audience ce lundi 25 mai du procès sur les présumés détournements des fonds d'exécution du programme de 100 jours du chef de l'État. L'homme d'affaires Jamal Sami continue à déclamer son innocence. Vital Kamerhe, de son côté, estime avoir agi dans ce programme sur base du principe de la continuité de l'État. Quelle analyse vous faites, Maître Wenga, de ces débuts de procès?
Merci beaucoup, Madame, de m'avoir associé à ce débat pour ce soir. D'emblée, je dois dire que mon intervention à ce niveau est d'ordre pédagogique, dès lors qu'un avocat n'est pas là pour commenter un procès qui se déroule principalement quant à sa forme et à son fond. Ici, c'est pour des raisons pédagogiques que j'ai accepté d'intervenir. Ce que je dois noter, c'est que, contrairement à l'audience du 11 mai passé, celle de ce matin a commencé vraiment avec l'instruction de la cause. Comme le public le suivait en direct, nous avons assisté à une introduction de l'instruction de la cause par le tribunal et à une bagarre juridique entre le ministère public et la partie civile de la République de du Congo et les parties prévenues. Et à ce stade déjà, je dois avouer que la guerre a été beaucoup centrée sur le pièce, le document, les différentes lettres, la procédure avec laquelle le marché a été engagé, les personnes intervenantes dans le marché de logements sociaux. Donc à ce stade, madame, je dois déjà dire que le président de la Chambre, qui est le président ad intérim de la juridiction, a été d'un niveau très élevé quant à la direction de la police des débats. Les avocats de part et d'autre ont haussé les débats et je dois avouer que ce matin, nous avons déjà eu une idée par rapport à ce procès, mais comme je vous l'ai dit dès le départ, je ne suis pas là pour dire qui a raison, qui a tort par rapport au débat de cet avant-midi, mais il faut reconnaître que le travail a commencé, l'instruction a commencé, aux uns et les autres de s'apprêter réellement parce que vous avez senti que le ministère public ne veut pas se laisser faire. La partie civile, aux côtés du ministère public, veut toujours enfoncer la partie prévenue. Et la partie prévenue aussi, par sa défense, comme vous avez suivi, et continue à plaider sur son innocence. Cela veut dire, madame, que le droit de la défense, qui jusque-là est en train d'être respecté, la parole...
Est-ce qu'on retient, maître Willy Wenga, que jusque-là, le procès se déroule normalement?
Jusque-là, le procès se déroule normalement parce qu'il n'y a pas encore un incident lié à une maladresse quelconque. Donc, dans les jours qui viennent, nous allons assister à un procès très ouvert et au stade prochain, ça ne sera plus la guerre des documents, la guerre des pièces, mais on va passer à l'étape suivante qui est maintenant la guerre des témoins à charge et à décharge.
Alors, M. Wenga, vous dites que c'est un procès très ouvert et qui se déroule jusque-là normalement. Que pensez-vous de ceux qui pensent que ce procès est beaucoup plus politique que judiciaire?
Vous savez, madame, moi je suis un avocat de terrain et partant de cela, un procès reste un procès. Chaque procès a son origine. Un procès est militaire lorsqu'il s'agit de militaires qui comparaissent. Un procès devient politique lorsqu'il s'agit des politiciens qui comparaissent. Un procès ordinaire lorsqu'il s'agit de citoyens quelconques. Donc, je ne peux pas dire que le procès est politique, mais je dis que dans ce procès, il y a des politiques qui comparaissent. Dans ce procès, il y a un homme politique qui est devant la barre. Ce n'est pas le fait que l'homme politique soit là que c'est un procès politique ou ordinaire.
Merci.
Mais je dois avouer que c'est un procès qui se déroule devant un tribunal de droit commun et que les infractions poursuivies sont des infractions de droit commun, on ne peut que se défendre en tant que justiciable ordinaire.
Merci, maître Willy Wenga. On vous garde encore dans cette émission. Le temps pour nous de donner la parole à maître Charles Mushizi, qui est avocat au barreau de Kinshasa. Matete, maître Charles Mushizi, votre analyse ou votre point de vue par rapport au déroulement du procès sur les présumés détournements des fonds d'exécution du programme de 100 jours du chef de l'État.
La manière avec laquelle le procès se déroule est très ordinaire, c'est-à-dire après l'audience introductive au cours de laquelle les justiciables, les prévenus ont été identifiés par le tribunal, parce qu'il faut rappeler que le dossier vient du parquet Et donc, le parquet a eu le temps de faire son instruction et transmis le dossier devant le juge. Le juge a pour premier exercice d'être sûr que les prévenus qui lui sont renvoyés sont exactement ceux qu'il a devant lui. Donc, après cette audience introductive, l'instruction a commencé sur les chaînes d'accusation qui sont portées sur chacun des prévenus. Et c'est comme ça, c'est normal, c'est comme cela que les choses devraient se passer. Alors, comment ça s'est passé? Très ordinairement, comme je l'ai dit. Il reste peut-être pour essayer de se faire une idée un peu plus substantielle sur le fond du dossier à entendre les témoins à charge et à décharge, parce que il est normal que même aucun s'est trouvé des recontractés, nul n'est censé plaider contre soi ou s'accuser. Donc tout le monde, très normalement, a clamé son innocence. Et c'est de bon droit, c'est de bonne guerre d'ailleurs pour quelqu'un qui sait qu'il est devant la justice et qui sait qu'il risque d'encourir une peine. La première attitude pour tout justiciable, pour tout accusé, c'est de nier les faits, quitte au ministère public et aux témoins qui ont été cités à comparaître, qui vont être cités à comparaître, d'apporter des éléments qui pourraient permettre au tribunal de se faire une idée un peu plus juste de l'établissement ou pas des faits à des griefs qui sont mis à leur charge. Et donc, le procès aujourd'hui nous a mis en présence des personnes qui ont dit ce qu'elles pensaient, des dossiers qui sont à leur charge, notamment pour ce qui est d'abord de l'infraction de détournement. Et puis c'est tout, quoi. Donc, après les avoir entendus, le tribunal a besoin d'entendre d'autres personnes qui peuvent lui apporter des éléments nouveaux par rapport aux défenses, aux moyens de défense qui ont été présentés par chacun des prévenus.
Alors, Maître Charles Mouchizi, est-ce qu'on peut dire que ce procès est un signal fort pour toutes ces personnes ou toutes les personnes qui s'adonneraient à détourner les biens et fonds de l'État? Lorsqu'on voit, par exemple, un directeur des cabinets du chef de l'État comparaître, est-ce que c'est un signal fort?
Je ne dirais pas cela, je ne crois pas du tout, pour la première raison que... on ne peut pas faire confiance en un juge qui, bon, je ne vais pas critiquer fondamentalement en tant qu'avocat ici, là je parlerai un tout petit peu comme défenseur de droits de l'homme, on ne demande pas à quelqu'un qui touche $300 de juger une affaire de millions. Vous mettez cette personne devant une épreuve de conscience parce qu'il n'est pas impossible d'expérience d'avocat d'abord et d'expérience de défenseur de droits de l'homme que ces personnes soient sollicitées justement et soient mises devant des épreuves avec ces sollicitations. De deux, le dossier me paraît avancer avec une sorte de militantisme qui ne garantit pas qu'il y ait une impartialité de la justice. La preuve, c'est que vous avez entendu qu'il y a des personnes qui ont été mises en cause et dont la signature n'est pas contestée, mais qui ne viennent pas comme prévenus, qui viennent plutôt comme renseignants ou comme témoins. Ça pose un peu, ça soulève un certain nombre de questionnements en termes de comment est-ce possible que les personnes qui ont agi, qui ont posé des actes, dont la signature est connue et qui devraient nécessairement assumer une certaine responsabilité, ne sont pas mises en cause pour effectivement répondre de leurs responsabilités telles qu'ils en sont. Parce que jusque-là, tout le monde est présumé innocent. Et donc, il n'est pas explicable que ces personnes-là ne soient pas invitées au même titre de prévenus comme toutes les autres. La troisième chose, c'est que on a tendance à croire que c'est un procès politique pédagogique, à caractère pédagogique, mais qui n'en est pas un, à mon avis, parce que, il y a plus de bruit que toute autre chose. Je ne sais pas pourquoi le parquet continue, semble afficher l'attitude d'une structure qui n'a pas fini son instruction et qui continue à entendre encore des personnes sur les mêmes faits qui sont en train d'être jugées aujourd'hui, ce qui ne clarifie pas trop la départition entre le parquet aujourd'hui et le tribunal. Il y a une sorte de va-t-en-guerre. Il y a une précipitation, à mon avis, et n'est pas
maître Charles Moussivi, on va vous donner la parole tout à l'heure. Professeur Léopold Paul Lalongo, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Kinshasa et conseiller à la Cour d'appel du Congo central. Professeur, ce deuxième jour d'audience était consacré à l'instruction du dossier. Quelle est votre lecture à vous en tant que professeur d'université et conseiller à la Cour d'appel du Congo central de ce procès sur les présumés détournements des fonds d'exécution du programme de 100 jours du chef de l'État?
Merci pour la parole, madame. Mais avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de saluer mes co-débatteurs, maître Willy Wenga, qui est un condisciple, qui est avocat barreau de Kinshasa Gombe, et maître Charles Mouchiri, qui intervient dans ce débat. Je vous remercie de m'avoir associé à ce débat en tant que technicien de droit, en tant qu'enseignant à l'université, et conseiller à la Cour d'appel également. Mais madame, de prime abord, je commencerai par faire une observation avant de répondre à la question pour l'audience de ce jour. Dans l'intervention de maître Willy Wenga, effectivement, il a dit qu'aujourd'hui, le procès, l'instruction a commencé, et vous l'avez posé une question de savoir si le procès a une allure politique. C'est-à-dire que je voudrais faire une mise au point. Lorsque nous avons suivi le ministère public, l'organe poursuivant, il a dit, et nous tous les Congolais, nous avons suivi le ministre de la Justice, qui a utilisé le prérogative et le reconnu à l'article 15 de la loi organique portant statut de magistrat, le pouvoir lui reconnu par le législateur de donner des injonctions positives au ministère public pour engager des poursuites. Et c'est le petit pouvoir, l'unique petit pouvoir que le ministre de la Justice a vis-à-vis de l'officier du ministère public. Et c'est au cours des conseils de ministres que le problème a été posé, et après les conseils de ministres, c'est le ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, alors, qui a reconnu ses antennes de radio et de télévision, que celui qui a donné injonction au procureur général près la Cour de cassation pour qu'elle soit engagée de poursuite sur le dossier des 100 jours du président de la République. Donc, quand nous sommes aujourd'hui dans la phase juridictionnelle, il n'y a pas un plaignant, c'est l'officier du ministère public qui représente l'État congolais, qui poursuit les citoyens congolais, dont certains sont de fonction politique et d'autres entrepreneurs comme Jamal, un citoyen libanais. Donc, il n'y a rien de politique dans ce procès, comme maître Willy Wenga l'a dit, et le Congolais doit savoir que c'est un procès qui concerne l'État congolais vis-à-vis de citoyens qui ont détourné ou les deniers publics, l'argent du peuple congolais. Donc cela doit être entendu une fois pour toutes, parce que jusque-là, nous n'avons pas vu une autre partie civile que l'État congolais. Cette mise au point est en fait, madame, je crois qu'à l'audience de ce jour, effectivement, Jamal, le prévenu Caméré, si nous suivons de la toute première audience et audience de ce jour, ils ont choisi une ligne de défense. Et cette ligne de défense, l'article 19 de la Constitution dit le droit de la défense est garanti. Et toute personne a le droit de se défendre elle-même ou assister de ses conseils. Et si vous regardez depuis la toute première audience, ils ont choisi une ligne de défense où les prévenus ne se reconnaissent pas entre eux. Et aujourd'hui, lorsqu'on pose la question au prévenu Jamal, qui à la première audience n'était pas à mesure de parler français, il ne parlait qu'arabe, aujourd'hui, dès la toute première question, il promet de tout déballer. Il appelle le peuple congolais à suivre ce qu'il va dire. Mais à toutes les questions lui posées, Jamal n'a répondu qu'à quelques-unes des questions seulement. C'est là que je suis en train de voir que le prévenu a choisi une ligne de défense qui ne leur facilitera pas la tâche et qui ne facilitera pas aussi non plus le tribunal. C'est ainsi que, après avoir entendu les prévenus, la partie civile, le tribunal a décidé d'inviter le témoin à charge et à décharge. Étant donné que les prévenus ont choisi une ligne de défense qui est la leur, et nous que le tribunal va les concéder ou les conseiller.
Le fait d'inviter le témoin à charge et à décharge, est-ce que c'est une façon pour le tribunal de ne pas tirer en longueur ce procès?
pour les criminels de prolonger le procès, madame. Vous savez que le procès a toujours duré, soit du chef de parti eux-mêmes, c'est-à-dire, si c'est en matière civile, ce sont les partis. Ici, nous sommes en matière pénale, ce sont les prévenus. Parce que le ministère public, qui est l'organe poursuivant, il est déjà, il est prêt. Il a posé des questions et le tribunal est en train de se en train de poser des questions. Et quand vous regardez l'attitude de prévenu, qui clame leur innocence, au même moment, ils sollicitent la liberté provisoire. Vous voyez que tout ça, ce sont des démarches qui sont en train de freiner et même l'instruction du dossier. Comme le tribunal a pris la vitesse de croisière aujourd'hui, moi je crie, ou je croyais que le prévenu avait déjà oublié la ligne de demander la liberté provisoire et demander au tribunal d'appuyer sur l'accélérateur, parce qu'en matière pénale, c'est la célérité. Mais le prévenu et même sont en train de compliquer leurs propres défenses. C'est ainsi que le tribunal est obligé de faire appel aux témoins à charge et à décharge pour accélérer l'instruction. Et pour avoir ces éléments, c'est en pleine instruction, oui.
Merci avec nous dans cette émission. Le temps pour nous de prendre les réactions des auditeurs qui sont très très nombreux à nous écrire et à nous appeler. Maître Willy Wenga, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Calémi.
Ali Mouchaba Joseph Cicéron, étudiant de jeu de droit à l'université de Calémi, chef-lieu de la province de Tanganyika. Nous remercions avec effervescence la justice congolaise pour la poursuite de l'affaire afférente au fonds d'exécution du programme des 100 jours tel qu'initié par le président de la République. C'est aussi une façon de montrer de manière ostensible à la population congolaise que le pays redynamise l'état des droits sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, victime de diatribes longtemps critiquées. Néanmoins, nous demanderions mordicus à la justice congolaise de mener les enquêtes probantes afin que la vérité éclate et non pas se fier aux simples déclarations de prévenus qui continuent jusqu'à présent à clamer leur innocence. Pour ce faire, que la justice congolaise se considère un bon père de famille tout en ne disant rien que les droits.
Maître Willy Wenga.
Oui, madame, je dois saluer d'abord le professeur Kondaloko qui est en ligne avec nous. Et bravo pour cette présence. Je dois saluer aussi notre auditeur Ali Mouchaba qui nous appelle depuis Calémi. Notre auditeur soutient que la justice ne peut qu'aider à faire éclater la vérité. C'est ça l'objet de la justice, madame. Vous savez que par rapport à ce procès qui est trop suivi par des millions de Congolais, nous avons constaté que dans les réseaux sociaux, il s'est dit beaucoup de choses qui ne sont pas conformes à la réalité. Il y a même beaucoup de faits qui sont dénaturés, voire même les partis qui comparaissent sont déjà jugés et condamnés dans les réseaux sociaux, sont même déjà acquittés dans les réseaux sociaux, alors que le travail que fait le tribunal à travers le réquisitoire, à travers l'instruction qu'il est en train de mener, c'est un travail qui demande une concentration pour que le peuple découvre, comme l'a dit M. Ali Mouchaba depuis Calémi, la vérité de ce qu'a été ou ce qui s'est passé dans cette question de logements sociaux. Madame, je pense que le tribunal, dans la manière de conduire ce procès, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas encore quelque chose à reprocher. Cependant, il faut reconnaître qu'il revient au juge dans sa manière active de rechercher les informations à travers les questions et réponses à poser aux partis qui comparaissent, de nous donner un schéma pour savoir qu'est-ce que le juge recherche. Et vous allez voir, madame, qu'à un certain moment, les partis qui comparaissent, les partis civils comme partis prévenus, à un certain moment, les partis se sont perdus pour commencer à poser la question au tribunal de savoir qu'est-ce que le tribunal chercherait. Par contre, le tribunal a sa logique, le tribunal a sa méthodologie, l'objectif est de trouver dans le parti prévenu des contradictions. Les partis prévenus qui comparaissent, la vérité que rechercherait le tribunal se trouve dans les contradictions. Lorsque, par exemple, le tribunal ou le ministère public sont convaincus que les partis se connaissent, et disent ne se connaissent pas. lorsque tel document qui a été réellement signé est nié, ou tel document qui n'a pas été signé, on veut le prêter à la partie prévenue, c'est le juge qui doit mener le débat de manière méthodique pour que la vérité vienne des réponses aux questions qu'il pose ou que le ministère ou les partis font poser. Donc jusque-là, le procès, jusque-là, je continue à soutenir qu'il n'y a pas de reproche par rapport à la conduite des débats. Seulement, je me dis que les témoins qui ont été cités doivent venir aussi, une fois de plus, nous permettre à ce que la vérité éclate. Et ici, le tas de droits que veulent toutes les couches de la population, l'état de droit tant vanté par la population congolaise, les gouvernants comme les gouvernés, c'est un besoin, c'est une nécessité. L'état de droit réside dans l'acceptation d'être jugé, dans la volonté de juger, et cela en dehors de tout sentiment, en dehors de
merci,
toute
maître
partialité.
Merci Maître Wiyuega, Maître Charles Mouchizi, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi.
David de Kibankoli, depuis Lubumbashi, dans la province du Katanga. Je pense que ce procès est un procès capital, tant qu'au niveau de la justice congolaise qu'au niveau du tout congolais. Ce qui malgré un nouveau air dans la justice congolaise qui a tant souffert et accusé de corruption et d'instrumentalisation, je devrais d'ailleurs apporter un changement dans la manière de faire des animateurs politiques de notre pays. À mon avis, je pense qu'il n'est pas encore bon moment pour lire une autre partie de crier à l'innocence ni à la culpabilité. Ainsi, en tant que tout Congolais, nous demandons que cette affaire puisse être poursuivie jusqu'au bout et que toute personne impliquée soit traduite en justice et qu'il réponde à ses actes. Car nous voulons un changement cohérent dans nos institutions qui ont tant souffert. Merci.
Maître Mouchizi, c'est pas encore le moment pour que l'une ou l'autre partie crie à l'innocence ni à la culpabilité.
Moi, je pense et j'ai beaucoup d'admiration pour les deux aînés qui m'ont précédé. Ils ont donné plutôt l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Je crois que en se limitant à leur argumentaire sur le plan technique, purement technique de l'application du droit et de la conduite du procès, on se serait dit que c'est déjà suffisant. Mais une fois encore, moi, je pense pas que le procès Kamere, Jamal et autres soit vraiment d'un caractère pédagogique particulier. Soumzé Laurent Désiré Kabila, on a vu les généraux Kikunda ici être condamnés, mais de manière dérisoire. Donc c'était des intouchables à l'époque. Un directeur de cabinet du chef de l'État, pour moi c'est un justiciable comme tout le monde. Mais il faut faire attention. Moi, ce qui me préoccupe plutôt dans le cas du déroulement des enquêtes, dans le cas de ce procès, c'est l'indépendance institutionnelle qu'est censée afficher la justice. Et je doute que cette indépendance soit établie à ce jour au vu de la modicité, de la dérision dans laquelle fonctionne justement la justice. Et on est en train de pousser la justice à une tentation, d'autant plus qu'on lui demande de juger une question de millions, pendant que elle, justement, ses membres, sont mal payés par l'État. La première chose que l'État devrait commencer par faire, en sachant que
cette histoire de l'État est permanente
dans le pays,
dans ce procès,
pour que dans une période aussi brève comme 3 ou 6 mois, puisse d'abord améliorer les conditions de travail de la justice, pour que dans des conditions vraiment d'égalité de traitement, comme membre de pouvoir à part entière de l'État, comme le Parlement, comme le gouvernement, on puisse voir une justice s'engager avec plus de volonté pour donner justement des réponses idoines à des questions de corruption qui se posent de manière permanente. Le détournement qu'aura fait ou n'aura pas fait Kamere aujourd'hui n'aura pas plus de pédagogie à apprendre aux gens du cabinet du chef de l'État ou des ministres ou même des entreprises publiques qui continuent à détourner malgré tout et qui se savent par exemple intouchables parce qu'ils sont protégés par tel ou tel autre. On a parlé de 200 millions d'un certain Mulimbi qui de la de Camille. On a parlé de 32 millions de dollars qui impliquaient la famille présidentielle du régime passé ou même un ministre. On a parlé. Et donc, on va rester dans un cadre purement théâtral où on instrumentalise la justice pour donner... Pour empouler des choses qui n'en valent pas la peine. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse dans tout le débat des procès,
on instrumentalise la justice en ce qui...
Plutôt de voir la question de la réforme qu'il faut apporter à la justice pour que la justice soit un rempart pour tout le monde, surtout pour les faibles, et pas pour faire les choses. Pour moi, ça, c'est un théâtre, sans plus ni moins.
Merci, maître Charles Moustivi. Professeur, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Mbujimayi.
Désiré Lisaïl Ilunga depuis la ville de Mbujimayi, province du Kasaï oriental. Ce procès est capital et bénéfique à la fois pour le peuple congolais, non seulement dans les soucis où il permet d'établir les responsabilités des uns et des autres dans le présumé détournement des fonds d'exécution du fameux programme des 100 jours du chef de l'État, président de la République, mais aussi et surtout dans la mesure où il redonne une nouvelle et belle image à notre justice longtemps ternie dans notre pays, car dans un état de droit, seule la justice véritable, équitable et pour tous exprime sa crédibilité.
Professeur Léopold Kondaloko.
Merci pour Désiré Ilunga d'Embougement et pour sa question, parce que pour lui... Et je résume son intervention. Pour lui, seule la justice élève une nation, madame. C'est ce qu'il vient de dire, parce que la justice, c'est le socle même du développement du pays. Et c'est à cela qu'il faut féliciter l'actuel président de la République, qui ne veut
et
pas
pour ce faire, cette justice doit être indépendante, ne doit pas être instrumentalisée.
Bien entendu, madame, c'est cette raison-là que j'ai dit que c'est là que je félicite l'actuel pouvoir, notamment le président de la République, parce que de toutes les actions judiciaires aujourd'hui, nous n'avons pas encore entendu l'impulsion du président de la République ou d'un politique pour donner injonction à un juge ou à un magistrat du parquet d'agir dans tel ou tel sens. Et c'est cela, la justice dans notre pays. Et pour que cette justice soit vraiment une justice indépendante et qui puisse contribuer au développement de notre pays, tous les Congolais doivent intérioriser cette justice-là. Parce que nous avons fait plus de 20 ans dans une dictature qui manipulait le pouvoir judiciaire. Aujourd'hui, le pouvoir judiciaire est sorti de l'ornière et est en train de recouvrer ses lettres de créances, et le pouvoir judiciaire est en train de vous montrer de quoi il est capable pour le redressement de ce pays. Parce que hier, nous ne pouvons pas se passer ce qui se passe aujourd'hui. Et pour que cette justice, vraiment, soit une justice qui élève une nation, j'en appelle aux auxiliaires de la justice, les avocats. Messieurs les avocats, aider la justice à bien fonctionner. Aujourd'hui, nous avons vécu une scène incroyable, imprévenue.
Mais qu'est-ce que vous pensez de l'analyse de maître Charles Mouchizi qui estime que la justice est instrumentalisée? Il a l'impression que c'est un théâtre qui est en train de se passer là.
Non. Pendant le régime passé, la justice était instrumentalisée. Mais depuis ce régime, la justice n'est pas instrumentalisée. Je vous dis, madame, jusque là, je n'ai pas encore vu une affaire en justice où on dit que la justice est instrumentalisée, même les affaires actuelles qui se passent en justice. Lorsqu'on est délinquant, vous avez détourné le denier public. Vous êtes encore... C'est vrai, la Constitution, l'article 17 de la Constitution, toute personne est présumée être innocente jusqu'à ce que la décision finale soit prise par le tribunal. C'est vrai, mais tant que la décision finale n'est pas encore rendue, on ne peut pas parler de l'instrumentalisation. Et moi, si je dis que pour que nous puissions avoir une justice juste et bien qui fonctionne dans notre pays, les avocats doivent aider leurs clients à bien intérioriser les principes judiciaires. Aujourd'hui, nous avons assisté à un prévenu qui, on lui pose des questions dès l'entrée de jeu, il se met... Alors, au lieu de répondre aux questions lui posées par le tribunal, il commence à dire, à faire des mises au point, il pose des questions au tribunal, il rappelle qu'il est directeur de cabinet du président de la République, il ne sait pas pourquoi il est en prison, vous comprenez, un prévenu doit être encadré, on dirait qu'il n'a pas d'avocat, alors qu'il aurait dû répondre aux questions du tribunal. Donc, nous ne sommes pas en face d'un procès politique. La justice, aujourd'hui, je confirme qu'il n'est pas instrumentalisé. La preuve, Vous avez ce qui s'est passé à la Cour de cassation le samedi passé. Le parquet général de la Cour de cassation a arrêté un député. Donc c'est pour vous dire que Sud aujourd'hui n'est plus instrumentalisé comme à l'époque. Aujourd'hui, la justice se sent libre. Et ce que Maître Bouchir vient de dire, c'est vrai. Il faut donner le moyen à cette justice-là. La justice n'a pas de moyens de sa politique parce que nous sommes en face des gens qui ont géré le pays pendant plus de 20 ans, qui ont accumulé des richesses, qui sont capables d'organiser des attentats, qui sont capables d'organiser des assassinats, des poisons vis-à-vis des juges et des magistrats. Alors il faut que l'État congolais soit en mesure de mettre ce magistrat à l'abri de toute tentative de corruption pour que cette justice soit réellement une justice qui élève une nation. Et moi, je suis convaincu que ce procès des deux prévenus, Kamere, Jamal et consorts, n'est qu'un début. Il y a d'autres procès qui vont venir. Vous savez, merci, lorsqu'il y a des gens qui vous ont...
Merci, professeur. Willy Wenga, que peut-on attendre de ce procès? Est-ce qu'on attend que l'argent soit restitué à la République ou que des gens soient condamnés?
Merci, madame, pour la précision. Un procès reste un procès. Sa nature est liée aux infractions dont le tribunal poursuit. Je dois avouer que l'objectif d'un procès, c'est d'arriver non seulement à la condamnation de la partie prévenue, mais aussi à la restitution des sommes supposées détournées. C'est ça l'objectif pour monsieur le procureur général. Il veut obtenir du tribunal la condamnation des prévenus et la restitution des sommes qui sont supposées avoir été détournées. L'objectif de la partie prévenue, c'est aussi de se défendre, de montrer son innocence et d'être acquitté. Donc, le but de chaque procès, ça dépend du côté où on se trouve. Le but pour le juge, l'objectif est de découvrir la vérité, de déceler la vérité et de prononcer des jugements conformes à la vérité découverte. Si le juge découvre qu'il y a eu détournement, il condamnera conformément aux dispositions pertinentes de l'article 145 du Code pénal livre 2. S'il trouve qu'il n'y a pas eu détournement, il acquittera purement et simplement. Donc l'objectif d'un procès, madame, c'est par rapport au côté que l'on occupe dans un procès. Le ministère public, son combat, c'est d'obtenir la condamnation et le remboursement des sommes supposées détournées. La partie civile, son objectif, c'est d'obtenir d'être dédommagé. Parce que j'ai dit que moi j'interviens pédagogiquement, comme formateur aussi, afin de faire comprendre aux gens que la partie civile qui est là, l'objectif c'est de voir le parti prévenu condamné aux dommages et intérêts. Alors que pour le ministère public, c'est obtenir la condamnation et le remboursement des sommes supposées détournées. Alors, pendant que le parti prévenu sont là pour se défendre, démontrer leur innocence et obtenir l'acquittement. Et là, je dois vous dire, madame, que s'agissant de la condamnation en matière de détournement des deniers publics, l'article 145 est trop sévère. En fait que une condamnation petite ou grande en matière de détournement, elle a des conséquences politiques et administratives trop sévères. Parce que la condamnation qui est prévue par l'article 145, c'est 1 an à 20 ans de travaux forcés, outre que la partie prévenue, si elle arrivait à être condamnée, elle sera privée de certains droits civiques et politiques à partir de la fin de la peine pénale.
Merci, Maître Willy Wenga. Je veux vous demander d'être bref avant de vous répondre, parce que nous tournons vers la fin de notre magazine. Pour vous, Maître Charles Mouchizi et Richard Toujibikile, depuis Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, qui dit ceci: nous demandons à la justice de faire son travail. Si cette affaire doit faire tomber des milliers de politiques, qu'il n'y ait pas de complaisance, cela permettrait de renouveler la classe politique avec de nouvelles personnes honnêtes. Le président du tribunal, que le président du tribunal a eu de son autorité pour bien diriger ou bien mener ce procès, sinon le verdict sera contesté.
Maître Moussivi. Moi, je comprends bien que ce soit une préoccupation de tous les citoyens, et cela a été une fois encore dit par mes prédécesseurs, qui sont restés techniques. Moi, je suis resté plutôt dans un cadre de plaidoyer. Pour moi, il faut préparer la justice à assumer effectivement les fonctions qui sont les siennes. Et je crois que la justice, telle qu'elle fonctionne, elle n'est pas à même aujourd'hui. Je parle de mémoire d'avocat, d'assurer un rôle régulateur véritable. Il suffit de poser la question sur la rue pour savoir ce que les Congolais pensent de notre justice et vous aurez la réponse. Il n'est pas question de se cacher la face devant le petit doigt. Tout le monde connaît la réputation qu'a notre justice. Et donc, en lieu et place de l'envoyer
donc,
encore
donc
dans une sorte
de
d'une compromission possible, je ne parle pas d'une compromission évidente, il faut préparer la justice à assumer son rôle en lui dotant des moyens nécessaires et surtout en donnant l'indépendance institutionnelle à cette justice dont tout le monde justement attend l'action. Vous savez, lorsque nous avons des clients comme avocats et que nous les entendons déjà douter de l'issue du dossier, nous-mêmes, comme avocats, nous sommes mis en mal. Lorsque des magistrats sont capables de solliciter nos propres clients à notre insu, nous sommes mis en mal. Et donc, valoriser la profession de magistrat valorisera directement la profession d'avocat, en cela que l'avocat sera devant quelqu'un qui s'assume totalement, qui est payé correctement et qui est devant la menace de la sanction lorsqu'il s'écarte sur le plan de l'éthique et de la déontologie. Et à ce jour, le magistrat est impuni. Nous connaissons tous comment fonctionne le Conseil supérieur de la magistrature. Nous connaissons tous que c'est un esprit corporatiste qui préside au fonctionnement de corps des magistrats. Et donc, l'impunité totale est déjà dans le cours dans le cas des magistrats. Et donc, je le dis plutôt avec une conviction citoyenne. Je crois que la meilleure manière de garantir.
Maître Mouchizi, vous êtes là?
À pouvoir mener des enquêtes de manière indépendante, rapide et efficace. Et elle ne le peut pas pour le moment. À mon avis, et c'est pour cela que je doute vraiment du caractère pédagogique du procès qui est en cours.
Merci, Maître Charles Mouchizi, professeur Léopold Ngondaloko, voilà, votre nom est quand même compliqué à prononcer. Votre mot de la fin, professeur, parce que nous sommes à la fin de notre magazine.
Merci, madame, le mot de la fin. Ce procès nous révèle surtout celui de l'audience d'aujourd'hui. Les prévenus sont en train de préparer l'opinion. En cas de leur condamnation, qu'il s'agirait d'une condamnation politique, alors qu'il n'en est pas une. Les prévenus doivent préparer leur défense correctement. Ils doivent collaborer avec la justice en facilitant la tâche au tribunal parce que nous sommes en face d'un tribunal aguerri, un tribunal qui comprend les choses, qui élève le débat et qui préside correctement l'audience. Donc, le prévenu doit collaborer avec le tribunal et pour qu'il puisse assurer correctement leur défense, madame.
Merci, professeur Leopold. Maître Willy Wenga, en une phrase, votre mot de la fin.
Acquittés ou condamnés, les prévenus ne resteront pas dans les réseaux sociaux, ils resteront devant le juge et conséquemment à leur défense et par rapport au registre du ministère public. À toutes les parties devant la barre de présenter ce dont ils sont capables pour présenter à la nation congolaise un procès équitable, une justice juste, un jugement sans reproche. Pour le reste,
merci, Maître Willy Wenga, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de dialogue entre Congolais, Axel Goncho, Guy Maté, Donna Madimba. La mise en onde était assurée par Patrick Kiasongwa, présentation et coordination Kelly Kouté. Restez chez vous et respectez les mesures barrières pour combattre la pandémie COVID-19. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.